BW. Vue d'Allemagne.
Les élections ont lieu dans moins de 3 mois en Allemagne et les candidats préparent leurs arguments. Dans ce numéro de Vue d'Allemagne, gros plan sur l'avenir de la politique étrangère après le départ d'Angela Merkel. En deuxième partie de ce magazine, reportage en Turquie qui sort officiellement de la Convention d'Istanbul ce 1er juillet, alors que le pays compte un record de féminicides. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Le Touzé au micro, willkommen et bienvenue.
Ja, guten Tag aus dem ARD-Hauptstadtstudio am Ende einer ereignisreichen Woche für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik.
Les 12 soldats allemands blessés dans une attaque au Mali sont justement en cours de rapatriement au moment où Annalena Baerbock, Olaf Scholz et Armin Laschet débattent de l'avenir de la politique étrangère de l'Allemagne. Pendant 90 minutes, la candidate des Verts et ses adversaires du SPD et de la CDU aux élections du 26 septembre répondent aux questions de la chaîne publique ARD et de la conférence de Munich sur la sécurité, sur le rôle de l'Allemagne dans le monde, et notamment à la question de savoir si l'Allemagne ne devrait pas se retirer de missions dangereuses comme celle de la Bundeswehr au Mali. Pour le social-démocrate Olaf Scholz, la réponse est non.
Il n'est pas possible quand on est dans une mission dangereuse et qu'on se retrouve tout à coup dans une situation dangereuse de dire qu'on n'y avait pas pensé. Il faut assumer clairement le caractère dangereux de ces missions et être conscient à chaque décision que l'on prend que nous sommes responsables de la vie de nos soldats. Il faut le considérer à chaque fois.
Le conservateur Armin Laschet est moins catégorique. Il faut, explique-t-il, réévaluer les missions selon la situation sur le terrain. Ce qui fait réagir la candidate écologiste Annalena Baerbock. Le Parti des Verts continue de soutenir l'engagement de l'Allemagne au sein de la MINUSMA, mais plaide pour un retrait du pays de l'EUTM, la mission européenne de formation des forces maliennes.
La mission EUTM, où il est aussi question de former des forces de sécurité de régimes dictatoriaux, comme l'a décidé le gouvernement, nous ne la trouvons pas juste. C'est pourquoi nous avons dit pour la première fois lors du dernier vote au Bundestag que nous ne pouvions plus soutenir cette mission parce qu'elle ne garantit pas suffisamment la sécurité de nos soldats.
Sur de nombreuses questions de politique étrangère, les potentiels successeurs d'Angela Merkel ont des positions plutôt proches. Ils soutiennent tous les trois les traités et les organisations internationaux, veulent que l'Allemagne joue un rôle plus actif dans le monde et navigue donc dans les eaux de l'ère Merkel. La politique européenne est un bon exemple de ce consensus. Les trois candidats plaident pour un renforcement de l'Union européenne et veulent faire en sorte qu'à l'avenir, les États membres ne puissent plus bloquer individuellement les décisions importantes en matière de politique étrangère. C'est en effet ce qu'a fait la Hongrie à plusieurs reprises, en empêchant l'Union européenne de condamner la Chine pour l'abolition des principes démocratiques à Hong Kong. Armin Laschet, Olaf Scholz et Annalena Baerbock veulent supprimer ce droit de veto d'ici à 2025. Les chances de succès sont toutefois modestes. Alors comment traiter avec un partenaire difficile comme Viktor Orban, le Premier ministre hongrois? Sur cette question, les candidats à la chancellerie ont des positions plus disparates. Tandis qu'Olaf Scholz et Armin Laschet semblent plutôt passifs, Annalena Baerbock veut passer à l'offensive. Pour répondre à une loi hongroise qui discrimine les personnes sur la base de leur orientation sexuelle, la candidate verte veut supprimer au pays les subventions européennes, et ce, le plus rapidement possible.
Cela ne peut pas continuer. Nous ne pouvons pas piétiner nos propres valeurs.
De manière générale, c'est Annalena Baerbock qui s'est montrée la plus offensive lors du débat télévisé. Mais les écologistes ont un problème. Selon un sondage de la Fondation Körber, les Allemands font davantage confiance à Armin Laschet et à Olaf Scholz sur la scène internationale. C'est ce qu'explique Nora Müller, qui dirige le bureau berlinois de la Fondation Körber.
Madame Baerbock apporte avec elle une grande expertise et une grande expérience en matière de politique étrangère, mais elle n'a encore jamais exercé de fonction dans un gouvernement. Contrairement à Olaf Scholz, qui a une grande expérience internationale en tant que ministre des Finances, et aussi à Armin Laschet, qui est ministre-président du plus grand État fédéral d'Allemagne et a un grand réseau au niveau européen. Cela a probablement coûté des points à Annalena Baerbock dans ce sondage.
La candidate verte se démarque de ses adversaires par des positions claires envers les régimes autocratiques. Elle demande ainsi l'arrêt des importations de marchandises chinoises produites par le travail forcé de la minorité ouïghour, tandis qu'Olaf Scholz et Armin Laschet envisagent les rapports avec Pékin sous l'angle du changement par le rapprochement, à l'instar de Willy Brandt avec les pays de l'Union soviétique et de l'Europe de l'Est dans les années 60-70. En ce qui concerne les rapports avec la Russie, justement, la position d'Annalena Baerbock est plus proche de celle de l'Américain Joe Biden. Comme les États-Unis, elle réclame l'arrêt de la construction du gazoduc Nord Stream 2, qui doit bientôt approvisionner l'Allemagne en gaz russe, ce qui ne reflète pas la position de l'opinion allemande, selon Nora Müller.
Les Verts se sont déjà positionnés clairement contre Nord Stream 2, mais comme le montrent nos chiffres, ils n'ont pas la majorité des Allemands de leur côté. Les citoyens allemands ont une opinion plutôt positive de ce projet, et Nord Stream 2 est à bien des égards aussi un indicateur des rapports avec la Russie en général.
Les candidats du SPD et de la CDU sont tous deux favorables au projet de gazoduc russe, même si Armin Laschet émet quelques réserves.
Cela ne doit pas se faire aux dépens de l'Ukraine. Et si le président Poutine ne respecte pas les règles et l'utilise contre l'Ukraine, on pourra arrêter à tout moment le pipeline, même s'il est déjà en service.
Actuellement, Berlin et Washington sont en pleine négociation pour tenter de trouver un compromis sur Nord Stream 2. Selon Günther Hellmann, professeur en sciences politiques à Francfort, cela pourrait aboutir au moment de la visite d'Angela Merkel aux États-Unis le 15 juillet. Le financement de l'OTAN devrait également être à l'ordre du jour. L'Allemagne consacre actuellement 1,56% de son produit intérieur brut à la défense. Olaf Scholz et Armin Laschet sont favorables à une augmentation à 2%, tandis qu'Annalena Baerbock ne veut pas s'engager sur un chiffre, tout en réclamant elle aussi une meilleure capacité opérationnelle de la Bundeswehr. Günther Hellmann résume ainsi l'avenir de la politique étrangère de l'Allemagne après Merkel.
Nous avons trois candidats qui ont beaucoup de points communs sur les positions consensuelles de la politique étrangère de l'Allemagne et qui ne sont pas inexpérimentés comme l'était par exemple Donald Trump en matière de commerce international.
Les partenaires de l'Allemagne dans le monde n'ont donc pas trop d'inquiétudes à avoir sur l'issue des élections du 26 septembre. Un pays avec lequel les relations de l'Allemagne ne sont pas au beau fixe, c'est bien la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, surtout depuis que le président turc a annoncé le retrait de son pays de la Convention d'Istanbul pour satisfaire son électorat le plus conservateur, c'était le 20 mars dernier. La Turquie avait pourtant été le premier pays à ratifier ce traité international qui vise à protéger et à combattre les violences à l'égard des femmes. Mais ce texte, qui comporte un volet important de prévention et de lutte contre les inégalités de genre, est jugé par le gouvernement turc comme une atteinte aux valeurs familiales traditionnelles. Pire encore, aux yeux des conservateurs turcs, cette convention ferait la promotion de l'homosexualité en interdisant toute discrimination en raison de l'orientation sexuelle. Les associations féministes sont vent debout contre le retrait de leur pays de la convention, alors que plus d'une femme est tuée chaque jour en Turquie. Selon les chiffres de la plateforme turque « Nous mettrons fin au féminicide », 474 femmes ont été assassinées en 2019. Les associations féministes accusent le gouvernement de protéger les meurtriers plutôt que les femmes. Certaines ont d'ailleurs porté plainte une cinquantaine de fois avant d'être tuées. Notre correspondante Marie Tillon a recueilli les témoignages de familles de victimes de féminicides et de survivantes qui se mobilisent contre la décision du retrait de la Convention d'Istanbul.
Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour lutter contre la décision du gouvernement de se retirer de la Convention d'Istanbul. Des milliers de femmes sont venues de plus de 70 villes en Turquie pour clamer à l'unisson « Nous n'abandonnerons jamais cette convention ».
Depuis le 20 mars dernier, des milliers de femmes font vibrer la Turquie à coups de manifestations pour demander l'annulation du retrait de la Convention d'Istanbul, à l'instar de Filiz Demiral, présente à un grand rassemblement le 19 juin dernier. Elle tenait dans ses mains une pancarte avec le portrait de sa fille, Ceyda Yüksel, tuée en 2020. Cette maman se bat chaque jour pour que la justice condamne le meurtrier, car cet homme prétend que Ceyda se serait suicidée. Nous retrouvons Filiz chez elle, qui nous lit avec émotion une lettre écrite la nuit où la Turquie s'est retirée de ce traité international.
J'ai fait la promesse à ma fille que justice serait faite. Et donc, j'ai enfoui ma souffrance au plus profond de moi pour continuer mon combat pour la justice. Mais lorsque j'ai appris au milieu de la nuit le retrait de la Convention d'Istanbul, mon sang s'est glacé. Je n'ai pas pu dormir jusqu'au matin. Pour de nombreuses femmes, notre seul espoir était cette convention, mais elle nous a été retirée de nos mains. Et maintenant, comment vais-je faire pour annoncer cette nouvelle à ma fille ? Pourtant, si cette convention avait été correctement implémentée, ma fille et toutes les autres femmes assassinées seraient encore en vie. Avec ce retrait de la convention, les femmes demeurent directement exposées aux violences et aux féminicides. Nous, les mamans qui ont perdu leur fille, nous sommes forcées de trouver la justice dans la rue et sur les réseaux sociaux.
Alors que plus d'une femme est tuée par jour en Turquie, ce retrait de la Convention d'Istanbul est un choc pour les familles des victimes. Rien que depuis le début de l'année 2021, les associations dénombrent 185 féminicides. Elles considèrent que les femmes sont généralement tuées par leurs partenaires parce qu'elles ont voulu prendre leurs propres décisions. Aycan Beysulen en a fait les frais lorsqu'elle a annoncé à son mari violent qu'elle souhaitait divorcer. Cette jeune femme de 24 ans a survécu à une attaque de 38 coups de couteau, commise dans un restaurant à Izmir.
Il m'a dit, si tu ne rentres pas à la maison avec moi, c'est ton dernier repas. En fait, il a voulu dire qu'il allait me tuer. Évidemment, quand il a dit ça, j'ai pris peur et je me suis levée. Il a directement sorti un couteau de sa poche et il a commencé à me poignarder. Les gens autour de nous criaient d'arrêter, mais il ne les écoutait pas. Des personnes ont fini par lui envoyer des chaises à la figure. Et c'est seulement en ce moment-là qu'il a fini par arrêter. Ensuite, j'ai été envoyée à l'hôpital. Les docteurs ont dit que j'étais en très mauvais état. J'avais perdu tellement de sang, mais je leur ai dit que je ne voulais pas mourir, que j'avais deux enfants et que tout ce qui compte, c'est que je reste en vie. Puis, je n'ai pas eu d'autre choix que de tenir bon pour mes enfants. C'est pour ça que je me suis battue. Dieu merci, j'ai gagné mon combat pour la vie, mais maintenant je mène un combat pour la justice. Je veux qu'il purge la plus grande peine de prison, car il pourrait très bien faire subir à d'autres ce qu'il m'a fait. Ce genre de personne doit rester enfermée. Tout ce que je souhaite, c'est que plus aucune femme ne meure.
Depuis le retrait de la convention, Aycan estime se sentir encore moins en sécurité. Elle dénonce l'impunité de l'État et donne l'exemple d'une vidéo dans laquelle un homme bat sa femme. Des images qui ont fait scandale peu de semaines après le retrait de ce traité international.
Dans la vidéo, on voit l'homme frapper violemment sa femme et il dit « De toute façon, l'État ne me fera rien. Même si je te tuais, je ne serai pas condamné. » C'est en fait notre gouvernement qui donne du courage aux hommes violents en ne leur donnant pas les peines qu'ils méritent.
Eva Bernard, doctorante à Sciences Po Aix et spécialiste du mouvement des femmes en Turquie, revient sur l'importance de la Convention d'Istanbul aux yeux des femmes qui s'organisent contre les violences.
C'est vraiment le symbole d'une victoire, d'une lutte qui dure depuis la fin des années 80. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'elles sont si mobilisées pour la défense de cet outil. Mais ça restait un outil pour insister sur la responsabilité de l'État d'agir sur ces violences et sur les manquements en fait de l'État dans l'aspect répressif, donc par exemple avec des peines très faibles suite à des féminicides ou le fait de ne pas obtenir une mesure de protection.
Pour cette chercheuse, le simple fait que la Turquie puisse se retirer en une nuit de ce traité sans aucune condamnation internationale est un réel affront pour le mouvement des femmes. Elle analyse d'ailleurs la portée d'une telle décision et les conséquences envisagées suite à ce retrait.
C'est montrer que la lutte contre les violences faites aux femmes n'est pas une priorité de ce gouvernement. Mais il y a aussi de réelles menaces sur les droits des femmes en Turquie, puisque le droit turc, bien qu'il existe des lois de lutte contre les violences faites aux femmes, elles sont beaucoup moins globales que la Convention d'Istanbul. Et aussi, elles pourraient être amendées ou abrogées du fait qu'il n'y a plus la Convention d'Istanbul comme base juridique pour les légitimer.
Toutefois, le mouvement des femmes, considéré par beaucoup dans l'opposition comme étant le seul capable de mobiliser des masses encore aujourd'hui en Turquie, ne s'arrêtera certainement pas au retrait de cette convention. Preuve en est, les associations féministes ont récemment appelé à la révolte. Elles comptent bien continuer de scander haut et fort les noms des victimes de féminicides lors de leurs manifestations. Marie Thion à Istanbul pour la Deutsche Welle.
C'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à Marie Thion pour son reportage sur les féminicides en Turquie et à Peter Hille pour le sujet sur la politique étrangère de l'Allemagne après Merkel. Merci aussi à vous de nous suivre chaque semaine. On se retrouve justement la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss !